France Culture, il est 12h30, c'est l'heure du journal. Et c'est avec vous Romain Bercher, bonjour Romain.
Bonjour, bonjour à tous. À Noël sous cloche en Italie, le Premier ministre décrète un nouveau confinement dès lundi face à la crainte d'une troisième vague. Une décision pas facile à prendre, reconnaît Giuseppe Conte. Un confinement qui sera strict et jusqu'au 6 janvier. Les détails dès le début de ce journal. Pour de nombreux Français expatriés à l'étranger, Noël ne se fera pas en famille dans l'Hexagone cette année. Trop compliqué au regard des exigences sanitaires pour le retour. Exemple à Hong Kong où l'on tente tout de même de conserver les traditions. Mis en examen et écroué, l'ancien agent de mannequin français Jean-Luc Brunel, accusé de viol par plusieurs anciens top modèles. Il est également soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur pour le milliardaire américain Jeffrey Epstein. Précision dans un instant avec Laura Dulieu. Et puis à la fin de ce journal, la Bulle Écho, signée Marie Viennot. Aujourd'hui consacrée à l'aide au développement de la France, le gouvernement qui réforme l'enveloppe destinée aux pays les plus pauvres. Pas de messe de minuit cette année en Italie, fin des célébrations religieuses à 22h. C'est l'une des exceptions au confinement très strict annoncé tard hier soir par le Premier ministre Giuseppe Conte. L'Italie serre la vis, le pays est confronté à une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 particulièrement forte. Les Italiens sont donc à la maison pour toute la période des fêtes, dès lundi et jusqu'au 6 janvier. Olivier Tosseri, c'est une décision radicale qui a été prise par le Premier ministre italien alors que le pays déplore plus de 68 000 morts.
Préserver l'économie ou préserver la santé des Italiens, c'était le dilemme de Giuseppe Conte qui refusait de soumettre son pays à un nouveau confinement. Il a fini par céder, s'est adressé solennellement à ses concitoyens pour leur annoncer un confinement strict pendant les fêtes de fin d'année.
C'est forte préoccupazione che la curva dei contagi possa subire un'impennata nel periodo natalizio.
Il y a une grande inquiétude que la courbe des contagions reparte fortement à la hausse pendant les fêtes de fin d'année. En particulier, je veux souligner que le comité technique et scientifique s'est réuni et nous a fait parvenir un rapport dans lequel il a exprimé sa très forte inquiétude pour les rassemblements et l'envie diffuse et compréhensible de convivialité et de sociabilité qui caractérise les fêtes de Noël. Nous devons donc intervenir. Et je vous assure que ce n'est pas une décision facile. C'est une décision douloureuse, celle de renforcer des mesures de prévention qui sont nécessaires.
Per rafforzare il regime di misure che sono necessarie.
Terminer le découpage du territoire en zones de couleur différentes selon la situation épidémiologique. Toute l'Italie est placée en zone rouge. Il sera interdit de voyager d'une région à l'autre, y compris pour se rendre dans une résidence secondaire, sauf pour motif de santé ou professionnel. Le commerce de détail, dont les bars et restaurants, sera fermé. Une seule sortie par foyer et par jour sera tolérée. Aux tables des réveillons, une limite de 2 invités adultes est imposée. C'est la seule façon d'éviter une troisième vague de Covid-19, assurent les autorités italiennes. La deuxième a déjà été plus meurtrière que la première pour l'Italie, le pays le plus durement frappé en Europe par la pandémie.
Olivier Tosseri, correspondant de France Culture à Rome. Pour freiner la propagation du coronavirus, les campagnes de vaccination se multiplient. En Europe, elles devraient démarrer la semaine prochaine, le 27 décembre, si l'Agence européenne des médicaments donne son feu vert d'ici là. La Suisse, elle autorise aujourd'hui l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech. Aux États-Unis, il y en a désormais deux. Après celui de Pfizer, c'est le produit développé par Moderna qui a obtenu hier soir l'autorisation de mise sur le marché par l'Agence américaine des médicaments. Pendant ce temps, les Français partent en vacances, mais moins que les années précédentes. Moins vers la montagne aussi, chute des réservations en station de 60 à 70% selon les premières estimations. C'est le littoral qui a plutôt la cote pour ces 15 prochains jours. Un rappel d'ailleurs, si vous souhaitez vous rendre en Corse, il faudra à partir d'aujourd'hui présenter un test au coronavirus en arrivant sur l'île singulière. Et puis pour les Français expatriés à l'étranger, comme à Hong Kong, il sera beaucoup plus compliqué de rejoindre la famille dans l'Hexagone cette année, tant les contraintes au retour seront compliquées. Philippe Lefebvre, ces Français du bout du monde vont tout de même tenter de conserver les traditions.
C'est la première fois depuis 8 ans qu'elle réside à Hong Kong que Shadi ne rentrera pas en France pour Noël. Et tout cela en raison des contraintes sanitaires visant les étrangers. En rentrant de France, elle aurait dû passer 15 jours à l'isolement, à ses frais, dans un hôtel choisi par les autorités locales. Impossible pour elle avec deux enfants en bas âge. Alors notre Française s'est organisée. Pas simple tout de même, notamment lorsque l'on veut un sapin.
Alors, le sapin de Noël, il est déjà là depuis 10 jours. Du coup, comme tout le monde reste coincé à Hong Kong, tous les sapins ont été pris d'assaut.
Le menu rappellera la France, saumon fumé, foie gras, langoustine et bûche faite maison. Mais Baptiste Villefranc, le chef pâtissier de l'hôtel W, a lui pensé aux Français qui ne savent pas cuisiner.
Une bûche de Noël 100% chocolat, avec juste une gelée de framboise pour les expatriés français. En fait, pour les Hongkongais, ils sont pas trop fans de bûche de Noël, mais on leur fait découvrir nos traditions. Donc, je fais quelque chose de très peu sucré pour les Hongkongais.
Et au moment du passage du Père Noël, Shadi aura sans doute une pensée pour tous ceux avec qui elle aurait dû être.
Je suis quand même assez excitée de vivre ça ici pour la première fois, mais ça va forcément être un peu difficile. Je vais forcément penser à eux.
Et pour beaucoup de Français de Hong Kong, ce réveillon se fera aussi sur la plage avec une météo voisine de 23 degrés.
Philippe Lefebvre. Des tensions éclatent en Centrafrique à l'approche des élections présidentielles et législatives le 27 décembre prochain. Les leaders des trois principaux groupes armés annoncent qu'ils fusionnent. La coalition menace désormais la capitale Bangui d'un blocus. De leur côté, les casques bleus de l'ONU sont en alerte maximale pour empêcher ces groupes armés de perturber les élections. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne d'ailleurs l'escalade de la violence. Il est soupçonné d'être le pendant français de l'affaire Epstein, du nom de ce financier américain accusé de trafic et abus de mineurs qui s'est suicidé en août 2019 dans sa cellule. Jean-Luc Brunel a été mis en examen et placé en détention provisoire. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
Cet agent de mannequin est donc soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur pour Jeffrey Epstein. Il est aussi accusé de viol.
Et oui, ce par plusieurs mannequins. Lorsque l'affaire Epstein éclate aux États-Unis et que le financier américain est inculpé en juillet 2019 pour avoir organisé un réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles, au moins deux femmes outre-Atlantique accusent Jean-Luc Brunel d'avoir joué les rabatteurs en France pour Jeffrey Epstein. Il repérait et ramenait aux États-Unis des jeunes filles issues de milieux modestes en leur faisant croire à une carrière dans le mannequinat. Le même été 2019, le parquet de Paris est alerté sur l'existence de potentielles victimes françaises et ouvre une enquête. Très vite, le nom de Jean-Luc Brunel apparaît. Il est le fondateur de deux agences de mannequins et au moment de l'ouverture de cette enquête en France, plusieurs anciens mannequins sortent du silence pour accuser cette fois directement Jean-Luc Brunel de viol. En octobre 2019, une première plainte s'est déposée contre lui pour des faits de harcèlement sexuel pas encore prescrits, contrairement à plusieurs autres accusations. Jean-Luc Brunel, 75 ans, a été arrêté mercredi à l'aéroport Charles de Gaulle. Il était sur le départ pour Dakar, au Sénégal. Cela a sans doute motivé son placement en détention à cause du risque de fuite. Il est mis en examen donc pour viol sur mineur de plus de 15 ans et harcèlement sexuel. Quant au fait de traite d'êtres humains aggravé car il s'agit de victimes mineures et d'exploitation sexuelle, Jean-Luc Brunel est placé à l'heure actuelle sous le statut de témoin assisté.
Merci beaucoup Laura Dulieu pour ces explications. Quatre jeunes Pakistanais ont été mis en examen et incarcérés hier soir dans l'enquête sur l'attaque au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Ces quatre hommes étaient en contact avec l'assaillant. Ils sont soupçonnés d'avoir été informés de son projet et de l'avoir possiblement incité à passer à l'acte. Le 25 septembre dernier, un Pakistanais âgé de 25 ans avait très gravement blessé avec un hachoir deux personnes devant les anciens locaux du journal Charlie Hebdo à Paris. Pas de nouvelles attributions de la 5G sans évaluation de son impact sur l'environnement. C'est une demande du Haut Conseil pour le climat qui publie un rapport aujourd'hui. La 5G est même un cadeau empoisonné pour la planète puisque le déploiement de cette technologie risque d'augmenter significativement les émissions de gaz à effet de serre, toujours selon le Haut Conseil pour le climat. Miss France a 100 ans, le concours fête son anniversaire ce soir et provoque de plus en plus de débats, glamour pour certains, anachronique pour d'autres, les associations féministes particulièrement qui dénoncent l'image de la femme renvoyée par ce concours de beauté. Alors ce soir, ce sera tenue de soirée et maillot de bain pour les 28 candidates qui s'affrontent au Puy du Fou. Jérôme Jadot, elle s'affronte dans une bulle sanitaire.
Miss Guadeloupe.
Certains n'y voient que glamour et paillettes, d'autres une tradition ringarde et sexiste. C'est ce que dénonce Osez le féminisme. Sa porte-parole Céline Pic pointe le règlement du concours. 1m70 minimum, pas de femmes mariées, paxées ou avec enfants, ni celles ayant posé dénudées.
C'est l'archétype de la jeune femme à marier et donc on attend qu'elle soit disponible et puis de bonne moralité. Il y a quelques semaines ou mois, il y a eu une Miss exclue parce qu'elle avait posé seins nus pour une campagne pour le cancer du sein. Donc vraiment, on est téléporté dans la société des années 50.
Un anachronisme que réfute Sylvie Tellier. L'ex-lauréate dirige aujourd'hui la société Miss France.
Cette élection est très en phase avec les problèmes de société d'aujourd'hui. C'est toujours compliqué d'expliquer pourquoi autant de succès de Miss France alors qu'effectivement nous sommes dans un climat MeToo. Chez Miss France, en fait, on véhicule des valeurs de tolérance.
Tolérance moyennement appréciée par certaines Miss. Iris Mittenard, lauréate 2016, regrettait il y a quelques mois les gestes déplacés et blagues limites à longueur de journée lorsqu'elle portait l'écharpe. C'est vrai, déplorait-elle alors, que l'on devient rapidement un objet.
Jérôme Jadot.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et aujourd'hui, Marie Viennot, vous revenez avec nous sur l'aide au développement de la France. Un projet de loi a été présenté cette semaine, suivi d'un conseil présidentiel.
Bien, mesdames et messieurs, Bruno Le Maire et moi-même, nous sortons tout juste du premier conseil présidentiel du développement.
Un conseil précédé d'un projet de loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales qui consacre, assure le ministre des Affaires étrangères, le retour d'une ambition française pour le développement.
Avec une APD, une aide publique au développement qui a maintenant dépassé les 10 milliards d'euros, notre pays est enfin revenu dans le jeu après quelques années d'éclipse.
L'éclipse dont parle Jean-Yves Le Drian a duré de 2010 à 2017, période pendant laquelle l'aide publique française au développement, austérité post-crise financière oblige, a chuté de 0,5% du PIB à 0,3%. Mais cette éclipse, on pourrait la faire démarrer bien avant, dans les années 80, car c'est dans ces années-là que la France aurait dû consacrer 0,7% de son PIB à l'aide au développement si elle avait respecté sa promesse. Ce chiffre, 0,7%, les pays de l'ONU s'étaient engagés en 1970, il y a 50 ans déjà, à l'atteindre dans la décennie suivante. Seulement 6 ont réussi depuis et la moyenne mondiale est à 0,3. En France, tous les présidents ont promis d'atteindre les 0,7 à échéances régulières et nombreuses en 1981, 1992, 2000, 2002, 2005, 2008, 2012, 2014 et 2015. Emmanuel Macron a lui été plus modeste. Il s'est engagé à atteindre 0,55% en 2022. Or, après 0,44% en 2019, cet objectif serait atteint dès 2021 et en 2022, selon les prévisions présentées par Bercy. Promesse tenue, comme souvent, il faut rentrer dans les tableaux et les chiffres pour tempérer tout triomphalisme. Premier gros bémol, cette augmentation de l'aide française au développement, mesurée en pourcentage, doit beaucoup au fait que le dénominateur, le PIB, a chuté du fait de la Covid-19, ce qui permet au ratio d'augmenter mécaniquement. En valeur absolue, néanmoins, la dépense consacrée aux pays en développement augmente bien. 17 milliards d'euros sont prévus en 2021 contre 12 milliards en 2020. Indéniable est l'effort, mais rajoutons trois bémols au premier. D'abord, 20% de cette aide consiste en des prêts selon les documents budgétaires, 50% disent les ONG. Ensuite, une partie de l'aide qui augmente ne quitte pas la France et va aux frais d'études et de bourses des étudiants étrangers et à l'aide aux réfugiés sur le territoire français. Enfin, si on passe de 12 à 17 milliards d'euros d'aide en un an, c'est parce que le gouvernement anticipe, comme le FMI, une explosion du surendettement dans les pays pauvres, qu'il a prévu d'annuler l'an prochain 4 milliards d'euros de dette et que ces remises comptent dans le calcul de l'aide au développement. D'ailleurs, Bercy prend soin de préciser que l'objectif de 0,55% du PIB sera atteint l'an prochain sans ces 4 milliards d'euros de remises de dette. Mais ce qui est prévu est-il à la hauteur des besoins qui vont s'accumulant pour les pays pauvres? Dette, mais aussi soins de santé, vaccins et plus urgent encore, famine. Après avoir diminué pendant des décennies, le nombre de personnes mal nourries augmente depuis 5 ans sous l'effet des guerres et des changements climatiques. 2021 sera une année catastrophique, prévient le directeur du PAM, le Programme alimentaire mondial, en recevant le prix Nobel de la paix la semaine passée. Il faut 15 milliards au Programme alimentaire mondial pour aider les 270 millions de personnes menacées par la faim sévère. À ce jour, il n'en a réuni que la moitié et poursuit donc ses appels à plus de générosité.
La Bulle Écho, signée aujourd'hui Marie Viennot. Votre météo avec un temps maussade pluvieux même sur une grande partie du territoire, en Bretagne, en Alsace et du côté de Perpignan. Il fera beau dans ces coins-là, il fera 7 degrés à Colmar, 9 en région parisienne, 11 à Quimper, 14 pour Biarritz et Marseille. C'est la fin de ce journal réalisé par Julien Loquet.